what I feel. I can't say my love is there for you any time of day.
Tel que je le disais un petit peu plus tôt, 50e anniversaire aujourd'hui de l'album triple de George Harrison, All Things Must Pass, pour amorcer notre conversation de Formule 1. George Harrison, qui était un grand passionné de sport automobile. Philippe Lagu qui est là. Bonsoir, Philippe.
Si tu me permets, pour une rare fois, de faire un peu de name-dropping,
ah ouais, donc.
Je l'ai même rencontré et,
ah bon,
j'ai son, et j'ai son autographe sur mon programme du Grand Prix du Canada 1980.
Alors, il se promenait, M. Harrison, cet ancien Beatle, qui a été le premier ancien Beatle enregistré en solo. Il y en avait du stock à nous proposer, un album triple à l'époque.
Hein, ouais. Pour l'époque, c'était pas rien. Produit par Phil Spector, qui est un des plus grands producteurs de l'histoire du rock. Puis si j'ai choisi What Is Love, c'est peut-être parce que c'est la pièce la plus rock sur l'album. Hein. Ça nous donne une petite connotation Formule 1, une petite connotation vitesse. Mais il faut pas oublier aussi que sur cet album-là, il y avait My Sweet Lord, qui est une de ses plus grandes pièces.
Bien sûr,
pièces,
bien sûr. On l'a entendu un petit peu plus tôt. C'est un incontournable. Ça joue chez nous encore. Je veux dire, je pourrais pas te donner la fréquence,
mais
je passe pas un an sans l'écouter. Ça,
les
c'est
Beatles,
sûr.
Là, c'est comme Pink Floyd et bien de ces grands groupes. Là, ça se transmet de génération en génération.
Exactement. Tu parlais de love, tu parlais d'amour. Est-ce qu'il y en a un qui manque d'amour actuellement en Formule 1? Et je ne parle pas de Lance, je parle de son coéquipier, je parle de Sergio Pérez. Toujours pas de volant pour lui. Et mesdames, messieurs, je peux vous dire une chose, Philippe, c'est le sujet qui te passionne depuis plusieurs semaines que l'avenir de Sergio Pérez.
Ben, qui me passionne, c'est parce que ça serait, pour vrai, là, ça serait une des plus grandes aberrations depuis que la Formule 1 existe, que ce pilote-là n'aille pas de volant. Là, pour ceux et celles qui nous écoutent à la maison puis qui sont pas des spécialistes de la Formule 1, je vais quand même vous faire une mise en contexte. Là. Au moment où on se parle, Sergio Pérez, pilote mexicain, qui pilote pour l'écurie Racing Point, donc qui sera Aston Martin l'année prochaine, donc l'écurie de Lawrence Stroll, pour laquelle pilote son fils Lance Stroll. Alors, Sergio Pérez, au moment où on se parle, il est quatrième au championnat. Mais il est premier du peloton B. Alors ça veut dire que les trois premiers au championnat, c'est les deux gars qui conduisent des Mercedes, qui sont inatteignables, et Max Verstappen sur une Red Bull. Pérez, lui, il est quatrième. C'est quand même pas rien. Il est en avant de l'autre pilote de Red Bull, bien en avant, d'ailleurs, Alexander Albon. Lui, il sera pas de retour, je l'espère, la saison prochaine, parce qu'il fait à peu près tout pour perdre son volant. Encore aujourd'hui, aux essais libres, il y a eu un accident. Alors, hein, c'est...
As-tu la conviction que si Pérez avait l'opportunité de conduire une Mercedes, qu'il pourrait chauffer les foufounes à Lewis Hamilton?
Il chaufferait pas les fesses à Lewis Hamilton. On n'est pas dans le même niveau de talent, là. On n'est pas dans le même niveau de surdoué. Là, tu compares un Gretzky ou un Lemieux à un marqueur de 35-40 buts. Là, on n'est pas tout à fait là.
Mais sur le même bolide, j'aurais été curieux de voir
il
ça. Sera,
ben, selon moi, il ferait mieux que Bottas.
Que Bottas,
ah, j'en suis convaincu. Écoute, Pérez, là, c'est un pilote qui est rapide, qui est fiable et qui est régulier. C'est une machine à ramasser des points. C'est peut-être le meilleur avec Lewis Hamilton.
Il finit ses courses
pour
souvent.
Gérer les pneus. En plus, ce qui est un gros point en sa faveur, alors c'est vraiment un excellent pilote. Là.
Est-ce qu'il fait peur aux autres écuries, aux écuries ou aux pilotes numéro un des écuries qui auraient une place pour l'accueillir?
Ben, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. C'est parce qu'en plus, ce qu'il faut ajouter dans le cas de Pérez, ce qui rend ça encore plus absurde, c'est qu'il y a de très généreux commanditaires qui viennent avec. Il y a des équipes de F1 qui lèvent le nez sur un gars de même. Je comprends pas. Il y a le talent, il y a l'argent, il y a tout ce qu'il faut. Là, t'sais.
Donc lui, il va piloter quelque part l'an prochain?
Non.
Mais je veux dire, peut-être ailleurs qu'en Formule 1.
Ben, je suis même pas sûr qu'il y a envie. Tu sais, il y a bien des pilotes là de F1 qui veulent pas aller faire de l'IndyCar. Puis je vais te dire pourquoi ils veulent pas aller faire de l'IndyCar.
Dangereux.
À cause des ovales. Parce que ça, là, c'est un véritable tout-monde. Là, ça, c'est comme le dernier cirque romain, là, à peu près. Là. T'sais, c'est les derniers ouais. gladiateurs, là. Bon, mais Pérez, chez Red Bull, ça serait juste dans l'ordre normal des choses. C'est un gars qui mérite un volant dans une groupe. Non seulement il mérite un volant tout court, mais il mérite un volant dans une des meilleures équipes. Le problème, c'est que est-ce que Max Verstappen veut l'avoir comme coéquipier? Poser la question, malheureusement, c'est y répondre. Il veut pas l'avoir. Et d'ailleurs, le clan Verstappen, donc le père, qui est très présent dans l'entourage de Red Bull, trop présent même au goût des gens de Red Bull, disons-le. Alors, le père et le fils Verstappen veulent avoir Nico Hülkenberg. C'est eux autres qui veulent comme numéro 2. Puis Hülkenberg, c'est vrai, il a très, très bien bien fait cette année quand il a été appelé à remplacer chez Racing Point, quand les pilotes ont eu la COVID, hein, Perez et ensuite Lance. Sauf que ce serait, pour eux autres, beaucoup plus facile à gérer à l'interne. Parce que là, tu n'aurais pas deux coques. Parce que ça, c'est l'autre problème. C'est que Perez, lui, est habitué d'être numéro un. Y a-tu envie d'être le numéro 2 chez Red Bull? Je suis pas certain. Puis chez Red Bull, l'écurie tourne autour de Verstappen et la voiture a même été construite vraiment en se basant sur les spécifications fournies par Max Verstappen.
J'ai une question pour toi par rapport aux équipes, aux duos qu'on décide de composer en Formule 1. On aime ça, nous autres, pour le spectacle. Surtout quand t'as une écurie dominante, t'aimes ça qu'au moins les deux gars, les deux pilotes qui ont la meilleure voiture, les deux meilleures voitures du plateau
puissent se battre.
Parce que des fois, le spectacle repose sur ces deux gars-là. Quand t'as deux écuries, bon, là, ça devient plus intéressant. Au moins deux écuries compétitives. Mais cependant, est-ce qu'il est prouvé historiquement que les équipes qui ont un vrai numéro 2, qui est là pour favoriser le numéro 1. Est-ce qu'ils ont plus de succès historiquement quand c'est le temps d'accumuler des points au championnat des pilotes, au championnat des constructeurs, ou les équipes qui disent à leurs deux coqs, au plus fort la poche, c'est la bonne stratégie?
Il y a des équipes qui ont perdu le championnat parce qu'ils avaient deux pilotes qui étaient du calibre des numéro 1. Si on recule loin, là, dans l'ancien temps, si on pourrait dire, là, on peut mentionner 1973 où Lotus avait la meilleure voiture et Emerson Fittipaldi et Ronnie Peterson se sont tellement battus un contre l'autre que ça a été contre-productif. Ils ont perdu le championnat et c'est Jackie Stewart qui a été couronné. Et c'est pour ça que par après, quand Colin Chapman avait engagé Mario Andretti, il avait fait signer à Ronnie Peterson un contrat de pilote numéro 2 et là c'était écrit noir sur blanc dans le contrat, si Andretti est en arrière de toi, tu le laisses passer. Et Peterson, là, il avait accepté parce que sa carrière allait moins bien.
Ça rappelle Eddie Irvine avec Michael Schumacher.
Exactement, Barrichello, tous les porteurs
d'eau. Ben oui.
Mais plus récemment aussi chez McLaren, en 2007, première saison de Lewis Hamilton, ben Hamilton a chauffé Fernando Alonso, qui lui était convaincu d'être le numéro un. D'abord, il méritait, il était double champion du monde. Là, t'as l'autre petit jeune qui arrive, puis qui pousse dans le derrière de l'autre tout de suite en partant, et ça a été une saison horrible à gérer pour Ron Dennis. C'était un environnement qui était très, très conflictuel, très toxique, et Ron Dennis, ça devait y rappeler des mauvais souvenirs, ça devait y rappeler les pires années de Senna et Prost. Hein. Et résultat, en 2007, à la dernière course de la saison, c'est pas ni un ni l'autre qui a gagné, c'est ni Hamilton ni Alonso, c'est Kimi Raikkonen qui s'est faufilé entre les deux. Dernière course de la saison, il a fini champion.
C'est bien pour dire.
Mais en même temps, si t'as un directeur d'écurie qui est solide et qui est capable de gérer ça, comme c'était le cas chez Mercedes quand Niki Lauda était là, Toto Wolff s'occupait d'à peu près tout ce qui se passait en périphérie, puis Lauda, lui, gérait très très bien la rivalité entre Hamilton et Rosberg. Mais quand Lauda est décédé, là, on a vu que Toto Wolff, il avait plus le goût de s'occuper de ça, là. Alors, avec Bottas, c'est beaucoup plus facile à gérer, hein? Voilà, beaucoup plus docile.
Et pour revenir à la course comme telle en fin de semaine, eh bien, c'est à Bahreïn, le Grand Prix de Bahreïn, Hamilton qui a été dominant aujourd'hui. Tu le disais, Albon est sorti de piste. À quel genre de course tu t'attends sur ce circuit-là, Bahreïn, Philippe?
Ben, encore les Mercedes, hein. Ce qui serait peut-être intéressant de voir, c'est est-ce que Valtteri Bottas va finir à un moment donné par faire jeu égal avec Lewis Hamilton. Depuis le début de la saison, il a vraiment été laminé. Mais oublie pas qu'Hamilton, lui, il court après un autre record aussi. Il veut être le premier pilote à remporter 100 victoires en Formule 1. Fait que lui, je suis pas sûr qu'il a le goût de faire un cadeau en fin de semaine non plus à
Bottas. Même si on est à l'approche des fêtes.
Non. Mais de toute façon, l'enjeu là, en fin de semaine, là, c'est vraiment pour la quatrième place au championnat des pilotes, parce que là, ça se joue entre Perez, Charles Leclerc et Daniel Ricciardo. Et ce qui est intéressant à surveiller aussi, c'est l'enjeu pour la deuxième place au championnat des constructeurs. Parce que là, évidemment, Mercedes et Red Bull sont dans une autre catégorie, mais Ferrari, ça a été tellement mauvais cette année que ça a laissé de la place à des outsiders. Mm-hmm. Donc là, on a Renault qui se positionne bien pour la troisième place, mais en ce moment, c'est Racing Point.
Puis j'ai hâte de voir aussi la performance demain en qualif de Lance Stroll, parce que, bon, il a été génial lors des dernières qualifs dans des conditions très particulières, sauf qu'avec tout ce qui s'est passé pendant la course, j'ai hâte de voir là quel sera l'écart entre Sergio Perez et lui.
Stroll, de toute façon, a des choses à prouver, ça. C'est encore le cas.
Philippe, sur ce, merci beaucoup. On se quitte sur... On l'a évoqué tout à l'heure.
Ben oui, c'est...
Fallait la refaire. Je m'en quitte là-dessus. On souhaite un excellent week-end à tous ceux qui sont à l'écoute. C'était Philippe Lagu. Merci à Geoffroy Morin, Jean Gagnon, Michel Tremblay, à toute l'équipe qui nous entoure. Merci à vous d'avoir été là. Oh, c'est-tu beau, hein, ça? Bonne fin de semaine et à lundi. I really wanna see you.